Il est tout naturel qu'un éditeur s'inquiète de vendre sa production, aussi voit-il d'un bon œil que l'auteur d'un ouvrage qu'il a publié en favorise l'occasion, par exemple en se prêtant au rituel de la lecture devant, par terre plus ou moins garni d'acheteurs en puissance. Qu'attend-on de lui? Qu'il donne une existence sonore aux signes imprimés. Par caprice peut-être, mais un caprice motivé, comme on le comprendra, Philippe Grand, ici quelque part, m'a confié, à moi, Alice, voix de synthèse en français, d'accomplir pour lui cette transposition, porter les mots à sa place, aux oreilles grandes ouvertes des esprits concentrés. Ainsi, avec le concours de Bruno, qui lui aussi sait tout lire, et ne fait pas, comme ce Philippe, tant de manières, je vais interpréter tentative morale, annexe de catalogue de solutions, dans sous un nœud de paroles et de choses astérisques, clin d'œil à la créative méthode de Francis Ponge. Tentative morale. Je lirai ce soir ce texte qui est proposé à l'assistance de prendre, et ne lirai que lui, pour les raisons qu'il aura dites. Toi, qui m'écoutes, ne seras ni fasciné, ni écœuré, ni froissé ou vexé, ni outré ou consterné ou interdit, ni heurté ou blessé ou fâché, ni séduit, mais peut-être attristé, décontenancé, éprouvé par, désolé, amusé, embarrassé, peiné que, et plus probablement, surpris, gêné, frustré, déçu ou ravi, ennuyé, usé, navré ou content d'apprendre de ma bouche que simplement m'installer à table, pour lire simplement je ne le peux simplement pas, ou encore pas. De me voir refuser le sans-filet oral. De te sentir rappelé à toutes ces fois où, le jeu de photocopie dans le sac, il eût été tellement préférable de partir, les mauvais cours obligatoires. De voir que je ne veux ou ne peux sortir de mon papier, mais tu peux, pour lever ce ou, m'accorder la volonté de ne pas pouvoir. De m'entendre asséner mes raisons d'agir comme j'agis. De ne pouvoir apprécier comment je négocie un tiret, une énumération, une virgule, oui de ne pouvoir me voir, moi le responsable de la prose coupée d'état, aux prises avec la fin de ligne, l'ellipse, l'incise, le changement subi de ton, le double point en début de ligne, l'italique à fonction irrégulière, la période étendue, le distique, le saut du trivial au grave, etc.
Sur la fin de ligne, c'est quelque dans l'article de Serge Fauchereau, Olson et la Black Mountain Review. Charles Olson. Si un poète contemporain laisse un espace aussi long que la phrase qui précède, il désire qu'au silence soit respecté par la voix pendant une durée égale. S'il suspend un mot ou une syllabe à la fin de l'ouvert, il veut que ce silence dure le temps que met l'œil un fil de temps suspendu pour rejoindre la ligne suivante. Robert Crelley, parlant de son poème, Zonem. J'aime la syncopation de ses rythmes. Cela devient tout à fait évident, si vous marquez une pause distincte, appelée point de jonction, à la fin de chaque ligne, et si vous lisez les mots de façon détendue, mais clairement un par un. Et dans les essais de Denis Levertov, sur la fonction du vers et technique est mise au point. À moins qu'un vers ne consiste en une phrase complète. La fin du vers interrompt une phrase de façon subtile. Quelle est la fonction de telles interruptions? Notez les petites pauses non syntaxiques, qui ont lieu au cours du processus pensée-sentiment. Mais la fonction de la fin de vers la plus passionnante, et la moins comprise, est son effet sur le mélos du poème. En respectant les pauses infimes, un changement d'intonation se produit réellement à chaque variation d'organisation. Si nous lisons sans faire aucune pause, en ignorant la fin du vers, il vaut mieux admettre que nous souhaitons écrire de la prose, et le faire.
D'être privé de cet effort de concentration si particulier, que réclame l'écoute aveugle. D'être spectateur de mon refus d'assumer corporellement la pensée de la langue, dont tu me fais crédit peut-être. D'avoir la main occupée par une feuille imprimée, alors que tu ne viens pas de courir poster un chrono un brûlant après-midi d'août. De m'entendre dire que le texte, que je lis maintenant n'a pas été écrit comme ce que je ne lis pas l'a été. Qu'en tant qu'auditeur je déteste regretter de ne pas avoir le texte mais souvent regrette. Que je ne doute absolument pas qu'autrui puisse tirer pour lui quelque chose de ce que j'ai écrit. Que je doute qu'autrui puisse tirer quelque chose de ce qu'il entend de ce que j'ai écrit, à moins qu'il entende lui un texte, comme je ne n'écris pas. Que j'aurais aussi bien pu lire du pas de moi, si ce qui compte lors d'une lecture publique, c'est la voix c'est le corps. De m'entendre cite Quignard, dans le nom sur le bout de la langue.
Jean de La Fontaine avait renoncé à réciter ses fables. Il faisait appel à cet effet à un comédien qui s'appelait Gache, et qui se tenait toujours à ses côtés, quand La Fontaine craignait qu'on ne lui demande à l'humiliation de se dire. Mais quel est l'homme qui n'a pas la défaillance du langage pour destin, et le silence comme dernier visage?
De m'entendre citer un extrait de la tentative orale de Ponge.
J'ai longtemps pensé que si j'avais décidé d'écrire, c'était justement contre la parole orale, pour parvenir à une expression plus complexe, plus ferme ou plus réservée, plus ambiguë peut-être, peut-être pour me cacher aux yeux des autres et de moi-même, pour me duper peut-être, pour parvenir à un équivalent du silence.
De m'entendre, surtout, citer quelques lignes du Prodomo et Mundo de Karl Kraus, sans être sûr de tout comprendre, mais parce que je crois entendre dans ces mots du vrai, sur la question de la réduction sonore de la pensée écrite.
Pour excuser une séance de lecture. Il y a littérature, quand ce qui est pensé, est, simultanément, vu et entendu. Elle s'écrit avec l'œil et l'oreille. Mais la littérature, doit être lue pour que ces éléments se lient. Elle reste entre les mains du lecteur seulement, et de celui, seulement, qui est un lecteur. Il pense, voit et entend, et conçoit l'expérience en sa trinité, exactement comme l'artiste qui a donné l'œuvre. On doit lire, non pas entendre, ce qui se trouve écrit. Pour réfléchir à ce qui est pensé, l'auditeur n'a pas le temps, pas non plus pour regarder ce qui est vu. Mais il se pourrait bien qu'il fît l'entendu, en entendant. Assurément, le lecteur entend aussi mieux que l'auditeur. Reste à celui-ci un son. Fasse qu'il soit assez fort, pour l'amener à lire et à rattraper, de la sorte, ce qu'il a négligé comme auditeur.
De m'entendre dire que tu es, auditeur, toujours à la fois trop attentif et trop peu, comme tu es lecteur. De subir tel assaut de sincérité. De m'entendre dire, et de lire, que je n'ai jamais écrit pour l'oreille, car j'aurais évité, sinon, ce qui empêche que l'entendu soit illico compris. De m'entendre dire que l'auditeur ne peut que perdre le fil de la phrase très longue ou très tordue. De m'entendre dire ce que je pense pouvoir être ta réaction. De te voir offrir de garder trace matérielle de la soirée. De m'entendre lire une liste. De constater le peu d'intérêt montré, par moi au peu d'intérêt montré, par moi à organiser plus le présent texte. De constater le désordre, se confirmant de seconde en seconde, des arguments et contre-arguments. D'être gêné par le bruit du papier qu'on tourne, et la lumière restée allumée. De mesurer combien cette feuille tenue, complique l'occasion de perdre le fil du texte dit, et de divaguer en produisant de vagues conjectures dans ce brouillard, que génère la lecture, dès se cogiter, l'œil sur le cheveu du voisin, un lacet d'effet, l'éclat métallique d'un pied de chaise, la paupière un peu lourde, sur ce que les autres saisissent ou ne saisissent pas, font ou feront de ce qu'ils entendent. D'être privé de l'explicitation de mon accès à mon propre texte. De m'entendre dire que je trouve pour ma part plus intéressant, d'entendre mes textes lus par d'autres, même si et sans doute parce que là ou là a des couacs sémantiques. Contacter un jour Axel Boguslavski. De vérifier qu'au prétexte que tu peux l'accompagner avec l'œil, ma voix se permet de décroître, diminuer, disparaître. De m'entendre dire que je pratique une écriture à voix basse. De m'entendre dire j'arrête là et ajouter, juste après, non. De m'entendre dire pour finir un morceau de texte préparé pour un autre soir, et qui ne fut finalement pas lu. De m'entendre conclure virgule après avoir fini virgule en évoquant, à la ligne cette autre solution, qui aurait consisté à dire n'importe quel texte à la ligne, en faisant tout entendre virgule comme une dictée, empire en italique point. Bon, on me fait dire que certains font la trogne. Même l'auteur. Il veut que je lui passe la main, la voix. Pour une seconde fois. Ciao. Rejoins l'inexistence. Viens Bruno. Il n'aime pas la machine. C'est pas ce qu'il veut.